vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 64. L'argent, c'est du temps, mais quand on en a tant, la sociologue Jeanne Lazarus se demande si on est content. Chers amis, bonjour. Alors voilà un titre d'émission bien long. Ça ne nous fait pas gagner du temps. Mais l'argent, est-ce du temps, comme dit le dicton, le temps, c'est de l'argent. Mais nous cherchons à chaque épisode le temps perdu et le jeu du hasard. Et de temps en temps, tant qu'on en a un peu de l'argent, on prend le temps de poser la question à quelqu'un de spécialiste. Alors, est-ce que le temps perdu, c'est de l'argent perdu? Bonjour Jeanne Lazarus.
Bonjour Ambroise Perrin.
Alors, vous êtes une sociologue de l'argent. Alors, c'est un joli titre, mais c'est sérieux puisque vous êtes une des grandes responsables de Sciences Po Paris. Vous êtes docteur en argent, alors agrégé de sciences économiques et sociales. Alors ici, c'est le temps perdu, c'est Proust, c'est le jeu du hasard, c'est Marivaux. Alors, je vais vous poser une question très naïve. Est-ce que quand on est riche, est-ce qu'on peut être riche simplement par hasard?
On peut gagner au loto. Ça arrive. Le plus souvent, on est riche parce qu'on a hérité de la richesse ou on est riche parce qu'on a eu des activités dans sa vie qui vous ont rendu riche. Mais le hasard, on l'a bien aidé à s'accomplir dans ce cas-là.
Alors, quand on a tout le temps devant soi, est-ce que l'on peut se dire... Dans longtemps, et si c'est possible, dans pas trop longtemps, j'aurai beaucoup d'argent parce que j'ai un métier formidable, parce que je joue toutes les semaines au loto, justement. Ou est-ce que la notion de temps peut avoir de l'importance?
Ah bah oui, quand on pense à son argent, le plus souvent, on le pense dans le temps. Il y a l'argent qu'on a aujourd'hui, payer tout ce qu'on doit payer. Mais la plupart des personnes s'imaginent un cycle avec l'argent. Les économistes parlent de cycle de vie, où, en gros, pour le dire très vite, quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'argent, on s'endette, puis on rembourse ses dettes, son crédit immobilier, son crédit étudiant, si c'est le cas, surtout dans les pays où c'est comme ça qu'on finance ses études. Et puis, ensuite, on va... Une fois qu'on aura remboursé ses dettes, on va commencer à accumuler de l'épargne. Et cette épargne, en gros, c'est la fin de sa vie active. Cette épargne, on va ensuite l'utiliser quand on est sorti de la vie active, qu'on est plus âgé et que là, on gagne moins d'argent. Et on va vider son épargne. Et alors, dans la théorie du cycle de vie, d'une certaine façon, on partirait de zéro, on arriverait à zéro. C'est jamais ça qui se passe, parce qu'il y a de l'argent qu'on va transmettre. Et il y a de l'argent, surtout, qu'on va garder toujours un peu comme une sécurité. Et donc, c'est pas toujours ça qui se passe. Et puis, il peut se passer des tas d'événements dans la vie qui vont faire que l'argent qu'on avait prévu, on va pas le gagner autant. Qu'on va avoir des sources de dépenses qu'on n'anticipait pas. Et puis, on peut perdre son travail. On peut avoir des événements familiaux qui vont faire que tout ce qu'on avait planifié ne va pas être comme on le pensait. Ça n'empêche que l'idée de l'accumulation de l'argent, elle est très présente dans la façon dont on a organisé nos sociétés, avec le concept d'épargne, le concept d'accumulation, même si ce n'est pas forcément beaucoup. Mais l'accumulation, elle est vue comme un signe vertueux, comme le signe qu'on est une personne raisonnable, qui fait attention, qui ne dépense pas plus que ce qu'elle a et qui garde pour les mauvais moments. Et le fait même d'anticiper, c'est souvent vu comme un signe qu'on est une personne morale, qu'on est une bonne personne.
Cela peut arriver d'un seul coup. Hein. Donc, on a dit, on peut jouer au loto. On peut gratter des cartes, on peut investir à la bourse et puis tout d'un coup, le cours s'envole. Ou alors, on peut faire un hold-up. Hein, enfin,
c'est ah bah plus ça, compliqué. C'est plus... Oui, ça demande plus de préparation.
Plus d'argent dans les banques. Ou alors, on peut attendre la mort de l'oncle d'Amérique. Donc, la notion d'héritage. Bien sûr, avec l'arsenic, parfois, on peut accélérer les choses. Mais c'est quelque chose qui vous tombe d'un seul coup dessus. Donc, cette notion de cycle est un petit peu perturbée.
Alors, sauf que les héritages, en réalité, sont très souvent donnés... En plusieurs fois, si on peut dire, puisque les parents peuvent anticiper et transmettre de l'argent à leurs enfants de leur vivant. Et donc, c'est assez rare des situations où des personnes seraient dans un grand dénuement et du jour au lendemain, comme dans les romans ou dans les films, recevraient un coup de téléphone d'un notaire qui leur dirait que des millions les attendent.
C'est comme gagner au loto, c'est impossible, enfin...
C'est rare.
Je n'encourage absolument pas, là on a commencé à parler de ça, à jouer au loto, c'est une, comment dire le mot, hein, c'est une arnaque, enfin c'est un impôt, ça permet de rêver. Donc ça c'est gratuit, sauf que si on joue au loto, je sais pas, une fois par semaine, au bout de 3 ans, c'est le prix d'une voiture neuve, quoi. Donc,
Oui, bah je crois que c'est une chance sur 14 millions de gagner au loto. Donc oui, les chances sont très faibles.
Oui. Donc ne jouez pas au loto. Bon, alors, l'argent donc, peut abolir le temps, si tout d'un coup on en a. Mais au bout de 5 ans, donc, on gagne le gros lot, une chance sur 14 millions, c'est ça?
Oui, j'ai ce souvenir-là, je ne suis pas certaine.
Mais quand on prend un crédit sur 10 ans, on revient à notre notion de temps pour payer son appartement. Effectivement, on a cette notion de temps où chaque mois, de façon vertueuse, on va rembourser son crédit. Donc, on a cette notion de la longueur, hein, de 5 ans ou de 10 ans pour rembourser son crédit. Mais si on paye son appartement, comme on dit, cash, enfin d'un seul coup, parce qu'on a économisé avant et puis on dépense l'argent. Là, la notion de temps est différente. Est-ce que le plaisir d'avoir son appartement aussi est différent?
Alors, en réalité, le crédit immobilier, c'est quasiment vécu comme une sorte d'épargne. C'est que l'argent qu'on va payer chaque mois pour payer son crédit peut être perçu comme une forme d'accumulation. Puisque, au bout du compte, c'est de l'argent qu'on va garder. Ce qu'on a acheté, c'est un bien immobilier et on a l'espoir, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais on a l'espoir qu'il va garder au moins la valeur initiale et voire avoir plus de valeur à la fin. Donc finalement, ce n'est pas un crédit qui est perçu comme une dette. Il y a vraiment, et ça dépend des formes de crédit. C'est très différent, par exemple, pour du crédit à la consommation où on paye pour quelque chose, on ne sait même plus pourquoi. Et par exemple, quand on a des cartes de crédit de magasin, voire de supermarché, où là, en fait, le crédit sert à compenser un manque d'argent. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est une sorte de dette qui va nous alourdir. Le crédit immobilier, il a un statut très différent, puisque il est vu comme un paiement qu'on ferait. Si on n'avait pas de crédit, on serait locataire et un paiement qu'on ferait quand même. Là, il y a l'idée que c'est une meilleure affaire de rembourser un crédit plutôt que de payer un loyer. Alors, ce n'est pas toujours le cas, on pourrait en discuter. À votre question, est-ce que quand on paye son appartement cash, on a un plus grand plaisir ça n'arrive jamais qu'on ait accumulé de l'argent mois après mois et qu'à la fin, on ait la valeur d'un appartement à cause du prix des appartements. Donc, les personnes qui payent des appartements cash, c'est soit qu'elles ont vendu un premier bien, soit qu'elles ont un héritage. Mais ça pouvait être le cas il y a quelques décennies quand le prix des logements était plus raisonnable. Mais étant donné le prix des logements aujourd'hui, on peut avoir accumulé une petite partie, le premier apport.
Les fameux 30% qu'il faut donner à la banque.
Voilà, c'est souvent moins hein, désormais, mais on peut avoir cette petite accumulation-là. Mais le plus souvent, en tout cas quand c'est au début de sa vie et qu'on n'a pas encore eu un bien immobilier à soi, eh bien, c'est quasiment impossible d'avoir pu accumuler assez pour payer un appartement ou une maison.
Mais est-ce qu'il y a autre chose que l'argent pour façonner ainsi le temps ? L'amour, peut-être ?
Oui, l'amour, le travail, les enfants, ça façonne le temps, hein, de les voir grandir, l'école. Il y a énormément d'institutions autour de nous qui sont organisées avec le temps, les fêtes qui reviennent chaque année, les fêtes religieuses, les fêtes les collectives, les anniversaires, le 14 juillet, le 31 décembre. Donc oui, le temps, il est façonné par de nombreuses institutions. Et l'argent, je ne dirais pas tant qu'il façonne le temps, je dirais plutôt qu'il s'inscrit dans la façon dont on pense le temps. On a mis l'argent dans notre conception du temps. L'argent, il est humain. Il n'existe pas en dehors des humains qui l'utilisent.
Est-ce qu'il y a une notion de méfiance par rapport à cette projection de l'argent, ou alors de confiance parce que l'argent, tout d'un coup, il ne vaudra peut-être plus rien ou...
Alors ça, c'est justement la différence entre les périodes de crise économique et financière et les périodes, disons, de routine, où justement, entre l'État, les institutions bancaires, financières... le but est de créer de la confiance. Hein. On entend très souvent ce terme dans la bouche des gens qui font les politiques économiques. Leur but est de créer de la confiance dans l'économie, dans les institutions. Et donc, en période, disons, de croisière, en vitesse de croisière, la question de la confiance ne se pose pas forcément. Et donc, on place de l'argent, on met de l'argent de côté et on espère que cet argent, qu'on va en avoir de plus en plus, qu'on va faire des placements peut-être qui vont réussir, mais on n'a pas de crainte que la valeur de l'argent qu'on a épargné disparaisse. En revanche, dans des périodes de crise, prenons un pays comme l'Argentine, qui connaît régulièrement des périodes d'inflation à trois chiffres, de dévaluation de la monnaie, etc. Là, effectivement, l'épargne peut tout d'un coup perdre sa valeur. Et là, donc, il n'y a pas de confiance dans le fait que épargner de l'argent ait le moindre sens. Donc, en réalité, pour que l'épargne sous forme monétaire existe, il faut avoir stabilisé énormément de choses pour que ça puisse avoir un sens. Et dans nos sociétés, avec en fait une vie financière trépidante et des crises qui sont finalement quand même assez récurrentes et assez rapprochées, peut finir par se poser la question de la confiance dans l'épargne. Mais ce qu'on voit en France, c'est que la confiance n'est pas si érodée que ça, puisque la France continue à avoir un niveau d'épargne très, très conséquent en comparaison de plein d'autres pays. Donc finalement, l'épargne, c'est à la fois l'argent qu'on n'a pas dépensé. On peut se dire simplement que les gens sont suffisamment riches pour ne pas tout dépenser, et ça peut être l'explication. Mais c'est aussi que les gens gardent leur argent sous une forme monétaire. Donc ils ont quand même l'idée que cet argent, ils vont pouvoir le réutiliser dans le temps et donc il y aura une forme de stabilité.
Donc en 2024, on fait des dettes où on emprunte de l'argent à la banque. Je me souviens, ma grand-mère qui était épicière disait pour elle-même, jamais de dette, jamais de crédit. Même si elle faisait crédit à tous les gens qui venaient acheter parce qu'ils n'arrivaient pas à faire la fin du mois. Est-ce que la dette peut être encore... Alors, la dette, ce n'est pas le crédit, hein, c'est deux choses différentes. Est-ce que la dette peut être considérée encore un petit peu comme le diable dans une famille? Ils ont fait des dettes, donc on comprend pourquoi ça ne marche pas dans leur... Je pense à Madame Bovary, hein, qui achète des soieries et des belles choses pour ses amants chez Monsieur Lheureux, le mal nommé, et qui finira par se suicider. Bon, dans la littérature, la dette est quand même considérée comme quelque chose de négatif. Il y a le père Grandet, il y a Gobseck, il y a plein d'exemples comme ça, ou dans l'argent des Rougon-Macquart. C'est quelque chose qui est quand même de totalement, comment dire, déshonorant pour les personnes.
Oui, alors cette question de la dette et du crédit, elle est passionnante parce que c'est très contradictoire. Par certains côtés, le crédit, c'est ce que dit par exemple Laurence Fontaine, qui est une historienne qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'économie morale, qui est un livre, en fait, sur le crédit au Moyen-Âge, si on peut dire, en Europe. Et ce qu'elle explique, c'est que tout le monde vit à crédit. Et que le crédit, c'est le lien social. Et qu'en fait, les gens qui n'ont pas de crédit, c'est ceux qui sont à l'extérieur de la société. C'est ceux qui n'ont pas de lien avec les autres et qui n'accèdent pas au crédit. Mais sinon, tout le monde est endetté. Les riches comme les pauvres, les aristocrates ont des dettes vis-à-vis de leurs fournisseurs. Les plus pauvres demandent à leurs protecteurs, à leurs seigneurs protecteurs, de les aider en période difficile. Et les seigneurs sont obligés de prêter parce que ça fait partie de la façon dont ils s'occupent des pauvres. Donc le crédit est partout. Et en même temps, ce crédit peut être honteux, ce crédit peut être utilisé pour dénoncer une personne, mais c'est dans des cas très spécifiques. Mais dans plein de situations, c'est ce que montrent aussi les anthropologues, le créancier est tenu d'attendre que son débiteur le rembourse. Et un créancier qui serait trop pressant peut aussi être lui-même mis au ban. Et ça, donc, on a plein de situations comme ça où le rapport de force entre le créancier et le débiteur n'est pas si simple. Ce qui est très différent à partir du XXe siècle, c'est que le crédit passe par les banques. Et donc, le crédit qui était une forme de lien social entre des personnes qui se connaissaient, c'est aujourd'hui un crédit qu'on peut dire industriel et standardisé et automatisé. Donc, on n'a plus des personnes qui se prêtent, mais on a des personnes qui empruntent auprès de banques qui appliquent des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Alors, le grand avantage, c'est qu'on n'a plus à avoir l'usurier qui connaît toute votre vie et qui peut, le jour où il souhaite, venir vous dénoncer et vous mettre dans une situation difficile. On a, quand on n'arrive pas à rembourser son crédit, on peut avoir aussi différentes instances qui vont vous accompagner, etc. Donc, l'aspect, disons, moral, social est moins fort. Il y a une sorte de normalité aussi dans le fait d'avoir des crédits. Hein. On n'a pas honte d'avoir un crédit immobilier. Après, tout dépend des formes de crédit qu'on va prendre. Et on a une hiérarchie de légitimité des crédits. Le crédit immobilier qui est le plus légitime et dont on peut tout à fait parler, s'ouvrir à ses amis en disant « voilà, je suis en train d'acheter un appartement, je suis allé voir plusieurs banques, je me demande quel crédit choisir », il n'y a aucun problème à en parler. Et puis, les crédits pour la consommation, qui, eux, restent, et donc c'est le fameux crédit de Madame Bovary, qui restent des crédits jugés superflus, qui sont un signe de mauvaise gestion de l'argent ou un signe de pauvreté. Donc, dans tous les cas, c'est des signes de fragilité, et cela, on a beaucoup plus de mal à en parler.
Et de tabou, parce qu'on n'en parle pas, c'est secret, cette liaison entre l'argent que l'on doit à quelqu'un. Et c'est un petit peu comme notre relation à Dieu, on croit, on ne croit pas, c'est assez rare, enfin à part les ecclésiastiques parce qu'ils ont l'uniforme, ou ceux qui vivent avec des signes ostentatoires, le fameux mot hein, religieux, mais autrement c'est comme quelque chose quand même d'assez privé. Hein. Bon, la religion à la maison, dehors c'est du poison, et avoir des dettes, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a à la maison et on ne le raconte pas aux autres.
Bah, en tout cas, si on appelle ça dette, si c'est des crédits, on peut en parler. Mais certains crédits sont des dettes et pas d'autres. Et effectivement, quand c'est des dettes, quand ça nous inquiète, en fait, certains crédits inquiètent beaucoup les gens qui les ont souscrits parce qu'ils se demandent comment ils vont les payer. Et ça, c'est des choses qui peuvent être dévorantes et dont on a beaucoup de mal à parler.
C'est pour ça que la société met en place des règles précises pour obtenir un crédit, parce qu'effectivement, on risque d'avoir les yeux plus grands que le porte-monnaie.
Oui, et donc ça, c'est pour ça qu'il y a des politiques publiques qui, là aussi, sont très ambivalentes, qui, d'un côté, ont tout fait pour développer le crédit, avec l'idée que le crédit était un moyen de favoriser l'économie, de permettre aussi aux personnes de mieux s'équiper. C'est toute l'idée des Trente Glorieuses. C'est l'idée du fordisme, hein, le fameux Henry Ford avec ses voitures uniques et son idée que ces voitures devaient être achetées par ses ouvriers. Et pour que ces voitures puissent être achetées par ses ouvriers, non seulement...
Il fallait avoir un bon salaire.
Il fallait avoir un bon salaire, mais il fallait avoir des crédits. Et ce bon salaire permettrait de rembourser les crédits pour acheter les voitures. Et donc là, on est dans un cercle vertueux de consommation, parce que ces voitures vendues permettent de payer les salaires des ouvriers, et ces ouvriers vont eux-mêmes être les consommateurs. Donc ils sont à la fois producteurs et consommateurs.
Et, C'est assez diabolique comme système.
Ça peut aussi être vu comme vertueux. C'est ce qui a permis la croissance économique, la croissance du confort. C'est ce qui fait qu'on a des frigidaires, des télévisions qui commencent à rentrer dans les foyers aux États-Unis au début du XXe siècle. En France, c'est plutôt dans les années 50 et 60, où on voit une amélioration du niveau de confort qui est permise par le crédit. Et c'est l'État qui va pousser à ce qu'on crée des organismes comme CTLM, comme Cofinoga, qui sont là pour aider à l'équipement des ménages. Et donc, c'est le crédit à la consommation. Ce n'est pas juste dépenser de l'argent comme ça pour... simplement parce qu'on aurait envie de se faire plaisir. C'est vraiment poussé par l'État dans l'idée que ça va être le moyen de soutenir les producteurs, de soutenir les entreprises et en même temps de moderniser le pays.
Alors la morale nous pousse donc vers Dieu et puis l'argent vers le bonheur, vers la consommation. Est-ce qu'il y a une concurrence entre Dieu et l'argent ?
Alors ça, c'est ce que on voit quand on regarde les textes sur l'argent et notamment les textes catholiques. Il y a une très très grande méfiance vis-à-vis de l'argent, sur l'idée qu'on ne peut pas adorer Dieu et l'argent, Dieu et Mammon. Et l'argent finalement est craint parce que il a une telle puissance. C'est une puissance infinie l'argent, parce que tant qu'on ne l'a pas dépensé, il a toutes les potentialités. Et donc, il a une puissance qui peut être vue comme aussi élevée que la puissance divine. Donc, les religions parlent toujours d'argent. Les religions édictent toujours des règles pour faire en sorte que l'argent reste à sa place. On peut pas. On a de l'argent. L'argent est là. L'argent circule. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on enlève l'argent, sauf certains ordres. Il y a par exemple des ordres mendiants qui décident de se passer d'argent, mais certains. Je pense que ces ordres mendiants, finalement, accordent trop de place à l'argent. Parce qu'ils organisent toute leur vie pour se passer
sur
d'argent.
Sur l'absence d'argent.
Voilà. Et donc, finalement, ils remettent l'argent au centre. Mais il y a cette inquiétude que l'argent et l'amour de l'argent, finalement, détournent de l'amour de Dieu et emmènent vers des valeurs qui ne sont pas les valeurs que les religions prônent.
C'est un petit peu la notion chrétienne de la société. Et c'est pour ça qu'on délègue la gestion de l'argent à des minorités, comme les chrétiens l'ont délégué aux juifs, qui étaient, de façon classique, normale, acceptés, les usuriers de la société.
Ça, c'est ce que nous raconte Georg Simmel, qui est un grand sociologue de la fin du XIXe siècle, sociologue allemand, et qui a écrit un livre qui s'appelle « La philosophie de l'argent » à cette époque-là. Et donc, c'est une énorme somme. Et une des choses dont il parle, c'est du fait que ce sont toujours des groupes marginaux, marginalisés, qui s'occupent de l'argent. Et que le fait de s'occuper de l'argent, de faire des métiers d'argent, dans quasiment toutes les sociétés, est jugé comme impur, comme problématique. Parce qu'on gagne de l'argent sur de l'argent. Et non pas par son travail. Et donc, il y a toujours un soupçon vis-à-vis de ce genre de métier. Et ceux qui occupent ces métiers-là, c'est les groupes qui sont rejetés des autres métiers, qui n'ont rien d'autre que l'argent.
Alors, il y a un groupe qui est celui des présidents de la République. Et il y en a un qui avait dit « La finance, c'est mon ennemi. Mon ennemi, c'est la finance. » Ça vous fait rire ?
Bah, c'est
cher
vrai
François
que ça a été... Ça a eu beaucoup de succès.
À Sciences Po, puisque vous êtes directrice de Sciences Po. Est-ce que vous avez
je suis doyenne du collège universitaire de Sciences Po.
C'est encore mieux, alors. Mais vous êtes toute jeune. On peut être doyen...
C'est un titre.
Ah, c'est un titre, voilà. Donc, mon ennemi, c'est la finance.
Oui, alors ça avait eu beaucoup de succès parce qu'évidemment, la formule était très percutante. Après, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire et comment le mettre en place. Donc, ça s'est transformé par une loi bancaire de séparation des activités de spéculation et des activités dites de finances réelles. Mais le problème de la finance, c'est que c'est de l'argent qui circule extrêmement vite. Si on revient à la question du temps, le travail de la finance, c'est de faire en sorte que l'argent aille toujours plus vite. Et donc, distinguer l'argent qui serait de la pure spéculation de l'argent qui serait utile à l'économie dite réelle, en fait, c'est une illusion. C'est impossible. L'argent va trop vite pour ça et passe de l'un à l'autre sans cesse. Et puis, cet ennemi de la finance, c'était d'ailleurs ce que disait François Hollande, il disait c'est un ennemi qui n'a pas de visage, etc. C'est comme s'il y avait une force qui est en dehors de la société. Comme si c'était un élément naturel, des ouragans qui de temps en temps passaient par là, et puis on a une crise financière, alors que ce sont des personnes, ce sont des groupes sociaux, ce sont des organisations, et donc cet ennemi, il est réel, et finalement, l'épreuve, ensuite, ça a été jusqu'à quel point est-ce qu'on peut s'opposer à la finance. Et c'est extrêmement compliqué, parce que toute notre organisation sociale et économique, elle est liée à ce monde financier. Et alors là, je pourrais vous faire une petite histoire, mais je vais essayer d'être rapide. Mais au début des années 80, il y a une transformation partie des États-Unis de l'organisation de la finance, qui initialement était américaine et qui a très, très vite... qui s'est disséminée à travers le monde et qui a en fait... augmenter la vitesse de la finance, qui a été la fin de toute une série de régulations dans des objectifs d'accélération, des objectifs économiques. Hein, et ça a complètement transformé la façon de faire de la finance, la place des banques dans l'économie. Et finalement, avec l'impossibilité de faire autrement, parce que si on ne faisait pas autrement, on se retrouvait marginalisé.
Jeanne Lazarus, vous avez dit que vous êtes la doyenne, hein. Sciences Po, si vous étiez le doyen, vous gagneriez plus d'argent ?
Ah, c'est une conversation que j'ai parfois avec le directeur. Il m'assure que non. J'espère que c'est le cas.
Parce que quand même, c'est aussi une question de temps, peut-être. Les femmes qui s'arrêtent peut-être plus souvent que les hommes pour élever les enfants, donc elles ont une fin de carrière qui est... avec des trous, et donc elles gagnent moins d'argent. Donc là, le temps les pénalise.
Ça peut être le cas. C'est pas toujours aussi simple que ça. Il y a aussi la façon de mettre en avant ces qualités. Et peut-être aussi pour les femmes, le fait qu'on leur dit toujours qu'elles sont jeunes. Qu'elles sont trop jeunes
pour avoir des responsabilités.
Accomplir telle ou telle... fonction, voilà, on voit qu'à la tête de l'État, la jeunesse n'empêche pas les hautes responsabilités.
Oui, mais alors quand on est tout jeune et on a beaucoup d'argent, parce que c'est une façon de s'en sortir, par exemple, quand on est... Je sais que les Noirs américains, par exemple, ils essaient d'avoir, alors c'est une généralité, hein, donc c'est un cliché, d'avoir de l'argent pour s'en sortir, pour montrer qu'ils sont comme les autres. Donc, on est jeune et on est comme les autres, on a une belle voiture, on a beaucoup d'argent.
Oui, alors ça, c'est des choses intéressantes que j'avais pu lire chez un certain nombre de militants africains-américains disant que c'est important de s'enrichir parce que précisément, et ça nous renvoie à Zimmel, précisément, ce sera la façon de se faire accepter dans la société. Et que si on veut se faire accepter en montrant qu'on est aussi intelligent, qu'on a les mêmes capacités scolaires, etc., en fait, on va toujours être regardé de haut et que ça ne marchera pas. Par contre, ce qui marche, c'est la puissance de l'argent et que c'est par là qu'il faut passer. Et c'est surtout, c'est vrai aussi particulièrement aux États-Unis parce que dans le récit national, il y a l'idée que la réussite économique est une réussite qui a droit de cité. Alors que dans notre France aristocratique, c'est plus compliqué. Dans l'aristocratie, qui peut être par ailleurs très riche, la réussite économique est jugée comme moins intéressante que la lignée et le temps familial, là, pour le coup.
Écoutez, merci Jeanne Lazarus, on a pris beaucoup de temps. C'était l'épisode numéro 64 de Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg, l'émission qui court après le temps perdu et le jeu du hasard. Et aujourd'hui, l'argent c'est du temps, mais quand on en a tant, la sociologue Jeanne Lazarus se demande si on est content. À la technique, Thomas Marinelli, on se retrouve tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. Et alors, on dit qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, mais quand on a de l'argent de côté, c'est qu'on en a devant soi, comme disait Raymond Devos. C'est probablement parce que l'on a confiance dans l'avenir. Soyons optimistes, lisons Proust et mangeons de la tarte au fromage. Et mon nom est Ambroise Perrin. Quelle richesse !